En vue du synode extraordinaire sur la famille, l'Église vient d'ouvrir une grande consultation à travers le monde. Les conférences épiscopales ont jusque janvier pour recueillir, synthétiser les témoignages des familles catholiques, en règle ou non, sur 39 questions. Elles concernent la famille, l'attention portée aussi aux couples homosexuels ou la question des divorcés et remariés. Les problématiques pastorales pourront-elles conduire à des modifications de la doctrine? Le cardinal Erdeux, archevêque de Budapest, rapporteur du prochain synode.
La doctrine établie de l'Église, pas tellement. Alors ce n'est pas une doctrine plébiscitaire, c'est une doctrine qui provient de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire l'essentiel de la doctrine de l'Église n'est pas à disposition, à libre disposition des êtres humains. C'est pourquoi il faut travailler avec beaucoup de responsabilité, mais il faut savoir aussi les nuances, les accents historiques, les possibilités de changement, surtout au niveau de discipline de l'Église. Il y a des possibilités de différentes solutions.
L'Église catholique œuvre pour la paix en Centrafrique, alors que le gouvernement a du mal à contrôler certains de ses membres, que des exactions des ex-Séléka se poursuivent à travers le pays. Un pacte républicain vient d'être signé à Bangui par les autorités sous l'égide de Sant'Egidio. Don Angelo Romano est membre du Bureau Relations Internationales de la Communauté catholique.
La signature de ce pacte est un signe de paix qui était attendu. J'ai perçu la grande joie de la population en écoutant quelque chose qui était un peu une bonne nouvelle. Les pactes républicains cherchent de créer un climat de véritable collaboration entre les différentes forces politiques présentes en Centrafrique. On établit une éthique de comportement. Il y a des points très importants sur le désarmement des milices, sur le retour de la sécurité, mais je dirais que le point plus important, c'est le renforcement de l'autorité de l'État, des structures de l'État, à travers la contribution de tous les forces politiques.
En République démocratique du Congo, l'épilogue de mois de combat entre l'armée et le M23. Certains rebelles ont déposé les armes, d'autres se sont repliés vers l'Ouganda voisin. Est-ce pour autant le retour de la paix dans l'est de la RDC? La réponse de Thierry Vircoulon d'International Crisis Group.
La province est loin d'être pacifiée. Les groupes armés les plus meurtriers, ce n'était pas le M23, ce sont les Mai Mai Tcheka, les Raia Mutomboki et d'autres mouvements comme ça. La résolution 2098 des Nations Unies donne mandat au casque bleu de neutraliser tous les groupes armés. Donc maintenant, on devrait voir d'autres opérations militaires contre d'autres groupes armés et il semble que sans doute la prochaine cible ce soit les FDLR. La question c'est de savoir si la stratégie employée contre le M23 va être efficace contre d'autres groupes armés qui sont différents.
Au Kivu, les problématiques sont nombreuses. Outre les violences des groupes armés, un missionnaire soulève la question de l'esclavage de ces hommes, de ces enfants qui travaillent pour rien et sans protection sur les chantiers, de ces petites bonnes qui sont parfois à la merci de leurs employeurs. L'Église a une parole claire, forte, mais comment agit-elle concrètement? Le Père Blanc, Bernard Hugeux.
Dans la pratique, si vous voulez, on constate que les plus riches qui sont à la tête des entreprises locales ou qui travaillent avec des entreprises multinationales peuvent être de bons pratiquants, des gens qui ont des dévotions, qui seront peut-être à la première rangée à la cathédrale, mais qui ne font pas toujours le lien entre leur dévotion et ce qu'ils entendent à l'église et leur gestion du personnel et des gens qu'ils emploient sur le terrain. Si bien qu'on peut avoir des gens qui sont en fait des esclavagistes dans les faits, mais qui en même temps seront très bien cotés dans l'Église et auront pignon sur rue un peu partout. Et c'est là que c'est difficile pour l'Église d'être à la fois en bonne relation avec les responsables locaux et capable d'être prophétique.
L'esclavage moderne et plus largement le trafic des êtres humains était l'objet d'une rencontre au Vatican à la demande du pape François. François qui a dénoncé la mort de 92 migrants dans le désert. Ils venaient du Niger. Le père Mauro Armanino, le responsable de la pastorale des migrants du diocèse de Niamey.
Il faut se demander si, au-delà de la réaction un peu émotive, en réalité, est-ce qu'on met en discussion les politiques qui créent cet état de situation. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont là et qui partiront de toute manière. Il n'y a pas de perspective politique et économique qu'on est en train de donner à ce pays. Pour la vie réelle des gens, à part une petite classe moyenne qui est en train de se solidifier, surtout des commerçants et ceux qui tournent autour des politiciens, mais c'est la débandade absolue.
En Belgique, musulmans, juifs, orthodoxes, protestants et catholiques s'unissent. Ils mettent en garde contre la banalisation de la mort, alors que le Sénat débat en ce moment de l'euthanasie pour les enfants. Outre les convictions dictées par la foi, il faut, dans une société laïque, savoir étayer son point de vue avec des arguments philosophiques, les explications de Mgr Léonard, président de la conférence épiscopale belge.
Contrairement à ce qu'on laisse entendre souvent, la décision de l'euthanasie n'est pas seulement une expression de la liberté personnelle de l'individu, c'est une demande qui a des répercussions sur la liberté de beaucoup d'autres personnes et qui a des répercussions sur l'ensemble de la perception des grands enjeux de la vie dans toute une société. Ensuite, la vie en société repose sur la solidarité de tous, des plus faibles avec les plus forts, des bien portants avec ceux qui sont malades, et on court le grand danger de miner ce sens de la solidarité. C'est cela que nous voulons surtout utiliser comme argumentation.